tous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Vous êtes dans Lionel Camille Talk, le podcast des énigmes de notre monde. Alors aujourd'hui, deuxième partie d'une affaire mystérieuse, l'affaire Denise Martin, qui a disparu en 1969 dans les Great Smoky Mountains. Donc je vous ai raconté les faits dans l'émission précédente. Aujourd'hui, je vais me livrer à certains commentaires et des analyses aussi pour vous aider à mieux décrypter cette affaire. Donc cette affaire s'est déroulée en 1969 dans le Tennessee et presque un demi-siècle après les faits, la disparition de Denise demeure mystérieuse. Vu la chape de plomb qui a pesé sur l'affaire, on ne peut faire que des suppositions. Revenons sur les principales zones d'ombre. Qu'est-il arrivé à Denise Martin ? Si on s'efforce de réfléchir de manière rationnelle, on pourrait d'abord penser que l'enfant, frêle, a été attaqué par un animal sauvage. Les Great Smoky Mountains abritent quantité d'ours noirs et de lions des montagnes. Néanmoins, les secours n'ont trouvé aucune scène de crime. En général, lorsqu'il y a une attaque par un animal sauvage, on retrouve de l'herbe piétinée, des marques dans la terre, du sang, et surtout les limiers ou les chiens qui sont spécialisés dans la détection d'êtres humains auraient obligatoirement détecté les odeurs de Denise et du prédateur. Il faut savoir aussi que lorsque les rangers suspectent une agression par un fauve, ils font appel à des pisteurs et à des chiens spécialisés. Bon, admettons que les pluies abondantes qui se sont déclenchées après la disparition de Denise aient effacé les traces et perturbé l'odorat des chiens. Mais quid du silence au moment des faits ? Si Denise s'était fait mordre et traîner sur le sol par un lion des montagnes, il aurait probablement hurlé, et son père, qui n'était pas loin et vigilant, l'aurait entendu. Et même si un cougar avait tué en silence Denise, en le mordant la nuque par derrière, et traîné dans un lieu tranquille, les prédateurs ne consomment jamais leur proie en intégralité. Ils peuvent enterrer les restes, par contre. En citons quelques rumeurs ayant circulé à l'époque. C'est vrai que Denise souffrait d'un léger retard mental, et son handicap aurait pu jouer un rôle dans sa disparition. On a aussi dit qu'il aurait pu mourir accidentellement dans un piège à ours. L'accident aurait été camouflé après coup. Mais on sait quel crédit accorder au ragot. Le problème, c'est que, quelle que soit la cause du décès, si Denise était mort, un cadaver dog, ou un chien renifleur de cadavre, aurait repéré les odeurs de décomposition dans les semaines suivantes. C'est biologique. Parlons des bérets verts maintenant. Il faut revenir sur un des points nébuleux de l'affaire, l'intervention de l'unité d'élite de l'US Army. Qui a fait venir les bérets verts ? Certainement pas Monsieur Martin. Le père de Denise ne bénéficiait pas de relations avec des personnes haut placées. On a raconté que les bérets verts sont venus apporter leur aide car ils étaient en exercice dans la région, mais personne ne sait qui les a contactés. De plus, leur comportement était très bizarre. On présume qu'ils ont préféré travailler seuls par souci d'efficacité, mais tout de même, en matière de coordination, on a connu mieux. Ne pas se mêler ou communiquer avec les autres équipes de Search and Rescue était-elle la méthode la plus efficace pour retrouver Denis ? Pourquoi les militaires étaient-ils armés pour une seule opération de sauvetage ? Cherchaient-ils Denis ? Ou autre chose ? Et qu'ont-ils trouvé ? Impossible de le savoir. Si les forces spéciales sont tenues par une obligation de secret, un ancien membre a quand même reconnu en off que chercher des personnes disparues ne fait pas partie des missions habituelles des bérets verts. Ça n'est arrivé que deux fois dans l'histoire des parcs nationaux aux États-Unis. Évoquons maintenant l'importance des noms. Rappelez-vous que l'histoire démarre par un événement apparemment anodin, mais qui établit d'entrée une atmosphère étrange. Deux familles qui se rencontrent dans ce lieu très isolé ont pour nom Martin. Est-ce un hasard, une coïncidence ou une synchronicité ? Et par la suite, Monsieur Key, qui signifie « clé » en anglais, intervient pour apporter son témoignage. C'est troublant quand on pense qu'il détient peut-être la clé de l'énigme. Passons maintenant au témoignage de Monsieur Key, un témoignage capital. En ce qui concerne l'observation de la famille Key, comment le fils a-t-il pu confondre dans un premier temps un homme avec un ours ? Donc évoquons dès à présent une des explications hors normes qui seront développées dans une partie du livre. Effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à un cryptide, À titre de rappel, la cryptozoologie est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence officiellement. Question: quel est le cryptide le plus populaire aux États-Unis? Réponse: le Bigfoot ou Sasquatch. Une créature humanoïde bipède couverte de poils, mi-homme, mi-bête. Seulement, on peut ici écarter cette piste pour deux raisons. D'abord, on attend toujours une preuve irréfutable de la réalité du Bigfoot. Et Monsieur Key a bien précisé qu'il s'agissait d'un homme. Un homme à l'aspect négligé. Venons-en maintenant à une piste non suivie. Dwight McCarter, quel park ranger ayant mené les opérations de recherche concernant Dennis Martin, est un homme courageux. Ce brave homme est un des seuls à s'être exprimé ouvertement sur cette affaire. Contre l'avis de son employeur, il affirmait être convaincu que Dennis avait été victime d'un kidnapping. Il a même avancé une hypothèse, d'autant plus surprenante qu'elle va dans le sens du témoignage de Monsieur Key. Tenez-vous bien, McCarter a déclaré qu'à l'époque, un groupe de wild men, hommes sauvages, vivait clandestinement dans les Great Smoky Mountains. Attention, on ne parle pas d'hommes de Néandertal, mais d'hommes comme vous et moi. Des individus sales, aux cheveux longs, vêtus de peau de bête et qui auraient choisi de vivre dans les bois, en marge de la société. Ne respectant aucune loi, ces marginaux armés seraient extrêmement dangereux. Selon McCarter, la direction du parc et le NPS, National Park Service, donc qui est l'agence fédérale qui gère tous les parcs nationaux aux États-Unis, étaient tout à fait au courant de l'existence de ces wild men, mais qu'ils ne parvenaient pas à les contrôler. Quelques années avant la disparition de Dennis, un ranger qui travaillait seul dans un coin reculé du parc s'était fait agresser par l'un d'eux. Étant donné qu'à l'époque les rangers ne portaient pas d'armes, l'employé du parc n'avait pas été en mesure de se défendre et laissait presque pour mort. Les autorités ont toujours passé sous silence l'existence de ces inquiétants intrus, mais il semblerait qu'ils squattent toujours les vastes forêts des Smokies. Indice supplémentaire de leur présence, les Indiens de la tribu des Cherokees vivant dans une réserve voisine du parc national ont rapporté avoir trouvé des empreintes de pieds nus, et il se murmure qu'on entend parfois des bruits de tambours et de flûtes provenant de vallées supposées inhabitées. Les Great Smoky Mountains étant le parc national le plus populaire des États-Unis, on peut comprendre pourquoi les officiels ne communiquent pas sur ce point. Avec plus de 300 millions de visiteurs en 2015, l'activité du parc génère un revenu annuel de 800 millions de dollars et soutient 11 000 emplois dans la région. Parler du danger des wild men et des risques encourus par les touristes risquerait-il de tuer la poule aux œufs d'or? Avant d'en finir avec cette affaire, abordons l'attitude ambiguë du FBI. Contrairement aux annonces officielles, le FBI a joué un rôle actif dans ce dossier. Il faut rappeler qu'en cas de disparition banale, l'agence gouvernementale n'a aucune raison d'intervenir. Elle n'est compétente qu'en cas de meurtre ou d'enlèvement supposé. L'implication des fédéraux est un indice qui suggère fortement que Dennis a été kidnappé à Springfield. Incapable de solutionner le problème des wild men et soucieux de préserver les intérêts du National Park Service, le FBI aurait-il contribué à étouffer l'affaire en discréditant le témoignage de M. Key? Dernier élément très suspect, l'agent du FBI et de l'antenne du Tennessee, qui a suivi ce dossier ainsi que d'autres cas de disparition irrésolus dans les Smokies, s'est suicidé. Aurait-il eu un secret trop lourd à porter? À moins qu'il eût des remords liés à son travail. Le mystère continue de planer encore aujourd'hui. Saura-t-on un jour la vérité sur la disparition de Dennis Martin en 1969? Personne ne peut le savoir. Allons maintenant plus loin. Existe-t-il vraiment des hommes sauvages dans les vastes forêts américaines? Serait-il possible qu'ils présentent un danger? Nous allons maintenant étudier cette possibilité. Est-ce que ces êtres seraient responsables d'enlèvement? On a vu que cette hypothèse d'un rapt d'enfants par des wild men a été avancée par un park ranger, un professionnel expérimenté qui connaît bien le sujet. on a tendance à penser que c'est quand même une personne de bonne foi, digne de confiance. Donc dans ce cas, il s'agirait bien d'individus donc appartenant biologiquement à l'espèce humaine, mais qui seraient revenus à l'état de nature. Ils auraient probablement dégénéré au point de plus avoir aucun sens moral. Donc ces Wildmen vivraient clandestinement dans des parcs nationaux, dans des zones inhabitées. Ils évolueraient en marge de la société et de ses règles. Vous vous demanderez sûrement pourquoi est-ce qu'ils enlèveraient des femmes ou des enfants de temps à autre. Eh bien, peut-être pour assurer leur reproduction, je sais pas. Ou pire, peut-être les réduire à l'état d'esclaves sexuels. Et vous vous demanderez sûrement comment ces Wildmen font-ils pour rester aussi discrets. C'est vrai qu'on n'en parle jamais dans les médias. Et moi j'ai ma petite idée là-dessus. Peut-être que ces Wildmen ont appris à se déplacer rapidement et de manière furtive sur des terrains escarpés. Et vous vous demanderez, oui, mais si ce sont des hommes, comment font-ils pour échapper au radar infrarouge dont sont équipés les hélicoptères, les avions qui participent aux opérations de sauvetage? Il faut savoir que là, par exemple, les pouvoirs publics utilisent des hélicoptères qui sont équipés de radars infrarouges, des radars à balayage frontal qui permettent de détecter toute trace thermique émise par tous les êtres vivants dans un secteur. Donc ils sont capables de repérer un ours, et même si une personne est morte, il faut savoir qu'un cadavre émet de la chaleur pendant plusieurs jours. Donc on peut détecter son corps. Voilà. Donc comment ces Wildmen font-ils pour échapper au radar infrarouge? Et moi j'ai une petite idée. Et s'ils vivaient sous terre? Il faut savoir qu'il existe dans les parcs nationaux un nombre très élevé de grottes, de caves et de galeries anciennes qui ne sont plus répertoriées sur aucune carte. Donc dans ma théorie, ces Wildmen se cacheraient la journée sous la surface de la Terre, donc là ils sont indétectables par l'infrarouge, et qu'ils sortiraient uniquement la nuit. Ils seraient habitués à vivre dans l'obscurité et ne feraient pas de feu par discrétion. Il faut savoir que le NPS, donc l'agence fédérale qui gère les parcs, dispose d'une technologie satellite qui lui permet de détecter les départs de feux de forêt. En clair, si vous faites un feu de camp dans un parc national, l'administration est capable de le savoir et d'envoyer des rangers vous mettre une grosse amende. Voilà, donc ces Wildmen se seraient adaptés au terrain, à nos sociétés. Ils auraient appris à vivre furtivement. Et voilà, peut-être que de temps à autre, ils seraient responsables de certaines disparitions inexpliquées. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de l'émission consacrée donc à la disparition de Dennis Martin. Donc c'est une des histoires tirées de mon nouveau livre qui s'appelle Disparu dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses donc aux États-Unis. Donc si vous voulez en savoir plus et retrouver beaucoup d'autres histoires qui sont tout aussi étranges, fascinantes, je trouve, vous pouvez retrouver le livre donc sur Amazon. On se retrouvera prochainement, je vous raconterai une autre histoire tirée de ce livre. Voilà, donc en attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, peace.